La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, semaine sainte. Je vous propose des extraits du journal de Raïssa. Cette semaine sainte peut soulever en nous des questions. Des questions par rapport au mal, par rapport à la loi et par rapport à l'amour. Voilà ce que Raïssa écrit. Le vrai visage de Dieu ou l'amour et la loi. Les âmes éprouvées, tentées, sentent confusément que la loi dont l'observation leur est si contraire ne peut être identifiée à Dieu, qui est amour. Mais ce sentiment ou bien reste confus, ou bien conduit à un certain mépris de la loi, ou bien tourne l'âme contre Dieu, considéré alors comme un maître dur et exigeant, ce qui est nier Dieu, ou serait nier Dieu si l'âme poussait jusqu'au bout de telles pensées jusqu'à leurs conséquences logiques. Eh bien, il est salutaire de distinguer la cause de Dieu de la cause de la loi. De là seulement peut découler l'attitude que l'âme doit avoir à l'égard de Dieu et à l'égard de la loi. Quand Jésus s'est senti délaissé de Dieu sur la croix, c'est que le visage de l'amour lui était alors caché et son humanité était tout entière soumise à la loi, sans aucune atténuation, ce que nul homme, sinon l'homme-Dieu, n'aurait pu supporter sans mourir. Jésus sur la croix, et tout particulièrement à cet instant de la totale déréliction, a souffert dans toute sa rigueur la loi de la transmutation d'une nature dans une autre, comme s'il n'avait pas été Dieu. C'est l'humanité comme telle, prise de la Vierge, qui devait connaître cette loi. Parce que le chef doit éprouver la loi qu'il impose à ses membres, parce qu'ayant pris la nature humaine, il devait connaître cette suprême loi à laquelle est soumise la nature humaine appelée à la participation de la nature divine. Et s'il n'avait souffert de la rigueur de cette loi, on aurait pu dire que le Verbe a pris un cœur semblable au nôtre pour compatir à nos souffrances. Cette loi de la transformation des natures, qui comprend en elle toutes les lois morales et divines, est quelque chose de nécessaire, de physique, d'ontologique si l'on veut. Dieu lui-même ne peut l'abolir, comme il ne peut produire l'absurde. Mais cette loi, la loi, n'est pas lui, lui est l'amour. Alors, quand une âme souffre, et souffre de cette loi inexorable de transmutation d'une nature en une nature supérieure, et c'est le sens de toute l'histoire humaine, Dieu est avec cette nature qui l'a faite et qui souffre. Il n'est pas contre elle. S'il pouvait transformer cette nature en la sienne, en abolissant la loi de la souffrance et de la mort, il l'abolirait, parce qu'il ne se plaît pas au spectacle de la peine et de la mort. Mais il ne peut abolir aucune loi inscrite dans l'être. Le visage de la loi et de sa rigueur, le visage de la douleur et de la mort n'est pas le visage de Dieu. Dieu est amour. Et son amour lui a fait tenir à l'égard des hommes une conduite qui peut paraître capricieuse. Aux anciens, comme Abraham et les autres patriarches, il n'a pas révélé toute la loi. Dans cet état de nature, il n'a pas même révélé aux hommes toutes les lois morales inscrites dans la nature. Parce que l'observation de l'ensemble de ces lois aurait supposé réaliser la perfection de la nature humaine, et cela n'était pas. Ou bien aurait demandé le secours des grâces christiques qui n'étaient pas encore acquises. D'où cette étrange liberté laissée aux hommes dans l'état de nature, même quand ces hommes sont Abraham, Isaac et Jacob, et puis Moïse et les Juifs, jusqu'à l'avènement du Christ. Et c'est dans cet état, cependant, que Dieu a choisi Abraham pour être le père des croyants. Abraham, cet homme simple, au cœur sans résistance, à la voix de Dieu, il croit Dieu qui lui parle. Il fait ce que Dieu lui dit de faire. Il va de sacrifice en sacrifice. D'abord, il quitte son pays et son père, les feux d'Our en Chaldée. Il accepte la vie nomade. Et puis, il quitte la foi facile, Il est relativement facile de croire Dieu qui promet d'abondantes bénédictions et une postérité immense. Mais lorsque le Fils unique, l'enfant encore stérile, doit être sacrifié, qu'il est douloureux de croire. Et il serait même impossible d'obéir, puisqu'ici l'obéissance fait commettre ce qui apparaît comme un crime, si la foi ne conduisait Abraham comme par la main. Jamais plus grande grâce de foi en Dieu n'a été donnée à un homme, et jamais homme n'a été plus grand dans sa fidélité, si nous exceptons Joseph et Marie. Abraham a ainsi connu, lui aussi, la dure loi de la transformation de l'homme naturel en homme spirituel et divin. Mais avec une large zone de liberté humaine où étaient mises entre parenthèses bien des lois laissées par Dieu dans l'ombre. Et quant à nous, il nous a révélé toutes les terribles exigences de la divinisation de l'homme. Mais pour nous les révéler, il est venu lui-même, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec le sang du Christ, par lequel nous est rendu visible son amour pour nous. Ainsi, la loi nouvelle est plus dure que la loi ancienne. Mais en même temps, l'amour de Dieu qui adoucit tout est plus répandu. C'est dans le sang de Jésus crucifié que sont nés les sacrements, soit qu'il purifie le baptême, soit qu'il vivifie la pénitence, soit qu'ils accroissent l'Eucharistie. La loi, toutes les lois, étant devenues si clairement et si terriblement visibles, le visage de l'amour de Dieu risque d'en être obscurci. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de distinguer l'amour et la loi. Quand la nature mise en demeure d'obéir gémit et souffre, elle n'est pas odieuse à Dieu, car quitter sa forme propre est pour toute nature une perte, pour les natures sensibles une souffrance. Quand ce travail, la nature humaine recule et tombe, dans ce travail, elle n'est pas odieuse à Dieu. Il l'aime, il désire la sauver, il la sauve pourvu qu'elle désire ne pas être séparée de lui, pourvu qu'elle reconnaisse la nécessité de la purification pour le salut. Si un pécheur reconnaît cela à l'heure de la mort seulement, il est sauvé et va se purifier au purgatoire. Alors ce qu'il faut avant tout et toujours dire aux hommes, c'est d'aimer Dieu, de savoir qu'il est l'amour et de se fier jusqu'à la fin à son amour. La loi est juste, la loi est nécessaire, de la nécessité de la transformation pour le salut, c'est-à-dire pour la vie éternelle avec Dieu. Mais la loi n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas la loi, il est amour. Si Dieu a pour les hommes le visage de la loi, les hommes s'éloignent parce qu'ils sentent que l'amour est plus que la loi. Ici, ils se trompent seulement en ceci, qu'ils ne reconnaissent pas la nécessité salutaire de la loi. Mais l'observation de la loi sans l'amour ne serait pas salutaire. Et l'amour peut sauver l'homme, même au dernier instant, d'une vie mauvaise, si à cet instant, l'homme a trouvé la lumière de l'amour, peut-être s'il a toujours cru que Dieu est amour. Il faut délivrer les âmes de ce sentiment d'inimitié qu'elles éprouvent, passivement et activement, à l'égard de Dieu, si elles le voient dans l'appareil des lois qui leur est une image ennemie de l'amour et qui masque le vrai visage de Dieu. La croix, c'est la loi qu'il a imposée à Jésus. Alors Jésus l'a prise pour partager avec nous la dureté de la loi. Il faut dire ces choses aux hommes. Si ces choses n'étaient pas dites, ils s'éloigneraient de Dieu quand ils souffrent, parce que la loi est une chose qui paraît séparée de Dieu, et alors elle se présente à nous. Si nous ne pensons pas à l'amour comme une ennemie de nous, et jamais Dieu ne peut se présenter comme un ennemi. Elle est d'une certaine manière opposée à l'amour. Dieu l'a faite en tant que créateur de l'être, mais en tant que notre fin et notre béatitude, il nous appelle au-delà. La loi est extérieurement proposée, elle implique une sujétion. En elle-même, elle paraît n'avoir rien à faire avec la miséricorde, ni avec l'égalité d'amitié, ni avec la familiarité. Elle est vraiment une nécessité, seulement une nécessité. L'amour donne par-dessus la loi, il pardonne. L'amour crée la confiance, la liberté d'esprit l'égalité, la familiarité.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
En cette semaine sainte, la philosophie réaliste donne la priorité à Raïssa. Voici une lettre écrite à Charles Henrion entre le 29 et le 31 août 1922 à propos de l'oraison. Dans la contemplation, écrit Jacques Raïssa Maritain, cette passivité se manifeste surtout par la ligature, l'impuissance, l'anéantissement, parce que nos facultés de connaître sont dans une disproportion absolue avec l'objet de la contemplation, qui est Dieu en lui-même. Il faut que l'intelligence reconnaisse ici son incapacité et laisse faire l'amour qui, par l'infusion de la divine sagesse, connaturalise l'âme à Dieu et le lui fait connaître dans une certitude obscure et ineffable. par les autres dons, au contraire, dont l'objet est en quelque façon plus particularisé, le Saint-Esprit exalte nos facultés et les proportionne à des actes ardus, héroïques, saints, en les appliquant lui-même, en les éclairant et les confortant. Pour en revenir à l'obscurité inhérente à la contemplation, on peut dire, me semble-t-il, que Denis l'Aréopagite la considère surtout ontologiquement et Saint Jean de la Croix psychologiquement. L'obscurité dont parle Denis ne cédera que devant la lumière de gloire. Elle tient à la disproportion absolue qui existe entre l'activité naturelle de toute intelligence finie et l'objet divin. L'obscurité que décrit Saint Jean de la Croix, ou du moins celle sur laquelle il insiste le plus, est la nuit purificatrice et infiniment douloureuse, qui cesse lorsque l'âme a atteint le degré de pureté et de sainteté voulu par Dieu. Ainsi, dit à peu près Saint Jean de la Croix, le feu commence par noircir le bois, il ne l'enflamme qu'après l'avoir desséché. Il faut donc passer par les nuits, par toutes les angoisses et les terreurs de la nuit, se voir enténébré et desséché de douleur avant que ne se produise le véritable embrasement de l'âme. Embrasement non consumant comme celui du feu naturel, embrasement vivifiant de la vie éternelle. Je n'ai rien à dire assurément de la nuit de l'esprit et de ce qui la suit. Il semble bien, cependant, à lire les mystiques, que ce qui suit est lumière et joie, et non plus souffrance et nuit. Mais que l'amour béatifiant succède à l'amour purifiant, c'est toujours Dieu perçu, en vertu de l'union, et ineffablement perçu. Que la contemplation soit tout obscure ou que des visions intellectuelles l'accompagnent, Dieu reste ineffable et ineffablement perçu, de sorte que l'essence de la contemplation mystique tient toujours dans les mêmes définitions ontologiques et psychologiques. Dans la contemplation, c'est Dieu qui est perçu. Il est vrai par le moyen de notre être fini et plus ou moins pur, comme dans le toucher, c'est bien l'objet qui est perçu par le moyen d'une main plus ou moins sensible. Dieu est perçu comme amour parce qu'il attire et unit, fait souffrir ou donne la joie, se révèle à l'âme comme sa fin, son repos, sa béatitude. Il est perçu comme quelqu'un qui nous touche et non comme quelqu'un qui est vu. L'âme touchée par Dieu bondit à la recherche de l'évidence et de l'union. Mais si son élan d'amour la porte vers Dieu, elle ne voit pas celui qu'elle touche et son expérience est aveugle. Quant à la question « Peut-il y avoir amour sans connaissance ?», Saint Jean de la Croix y répond admirablement dans la vive flamme à la strophe 3. La simple connaissance de foi suffit à l'amour infus, que cet amour lui-même produise ou non la connaissance de contemplation qui, à son tour, nourrit l'amour. L'âme expérimente l'amour de Dieu pour elle et l'amour par lequel elle répond est lui-même comme l'ombre du divin amour en elle. Et en un sens, ces deux amours si différents sont un seul amour, comme deux esprits qui adhèrent l'un à l'autre sont un seul esprit. Voilà mes cailloux tirés de l'eau. Ils me paraissent bien ternes. Qu'en ferez-vous, mon cher frère ? N'importe. Il m'a été doux de vous parler de Dieu. Et vous aurez prié une fois de plus pour votre sœur Raïssa, qui vous est bien profondément attachée in Christo. Raïssa continue à nous conduire dans cette Semaine Sainte. Voilà des extraits du journal de Raïssa et ce magnifique texte sur la divine transcendance, fondement de l'immanence ou omniprésence de Dieu. Dieu nous enveloppe et nous pénètre, et son être nous est inconnu. Nous savons qu'il existe, et nous ignorons ce qu'est son existence. Quand libérés par la mort, transformés par la grâce, nous paraîtrons devant Dieu, nous connaîtrons sa transcendance, mais ce sera une découverte totale, absolue. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est cela que nous connaîtrons. Cependant, cette transcendance, cette infinie toute-puissance au-dessus de nous, loin de nous rendre distants d'elle, est ce qui nous met en elle sans distance. Notre dépendance est un autre absolu qui nous met au sein de Dieu, là où nous vivons de la vie éternelle, là où nous naissons par l'âme à la vie éternelle. S'il n'était pas si absolument transcendant, Dieu serait en quelque manière, selon une fausse conception de la transcendance qu'on rencontre parfois, univoquement semblable à quelque attribut de la créature, porté à l'absolu, et c'est par là qu'il se distinguerait des attributs propres du créé. Il serait ainsi inclos dans son absolu par une sorte de limite, et serait pour autant éloigné ou absent de nous. Mais la transcendance de l'omniprésent ignore toute limitation, rien ne l'enferme ou ne l'enclôt. Qu'est-ce qui pourrait créer entre lui et nous une distance? Nous éloigner de lui? Nous sommes en Dieu, le fruit qu'il porte et fait vivre. Nous sommes au sein de Dieu, quoi que nous fassions de notre liberté, immergés en lui et lui en nous. S'il n'était pas la transcendance avec un grand T, il y aurait un écart de lui à la créature, un vide de l'un à l'autre. Tout ce qu'il a fait subsiste en lui, comme les poissons aveugles immergés dans les grandes profondeurs. Là où la grâce est donnée, survient une lumière diffuse. Là où la gloire est reçue, éclate la vision béatifique. L'âme se sent plus unie à Dieu par la négation de toute ressemblance de la déité au créé que par toutes les analogies de l'image que la créature est de Dieu. Chacun des traits de cette image est une déception et une fatigue pour l'âme. Le repos de l'âme en Dieu est d'autant plus grand et plus parfait que le nombre des images diminue. L'imagination vide laisse Dieu aspirer l'âme à lui. Et s'il subsiste alors un effort dans l'âme, c'est une sorte d'aspiration vers l'union, vers la dissolution de toute différence, vers la fusion d'amour non d'essence, de l'âme créée avec l'incréé, de la nature, de la créature avec la déité. 21 février 57 ou 58.